Mais on va commencer doucement. Et maintenant que certaines personnes reviennent de leur pause cigarette, ce qui vous laisse le temps d'admirer certaines œuvres de Nicolas, qui est là.
Interdit au moins de 16 ans.
Il va falloir faire sortir la moitié de la salle, là.
On les a nettoyés, hein.
Nicolas, tu peux nous parler de ton travail, d'ailleurs, là, rapidement. L'image qu'on avait juste avant, c'est
sans
quoi
sans torticolis.
Non, mais avant, tu peux retourner en arrière ou pas?
Non, on peut pas retourner en arrière. Mais de toute façon, ça va retourner. Là, il y a un petit florilège. J'ai pas amené 500 000 choses. J'ai amené quelques planches du jeu Timeline pour montrer un peu sur la partie jeu ce que j'avais fait. Il y en a pas mal également sur Kadat, sur le livre Kadat, le guide de la cité inconnue, dont tu fais partie des heureux élus à l'écriture. Et voilà. Et puis autrement, un petit florilège de couverture, de choses comme ça, en sachant qu'il y a aussi également de ce qui est exposé des compléments des images qui sont projetées ici. Je sais pas, est-ce que je vais présenter un peu, peut-être pour même si tout le monde n'est pas revenu. Donc pour vous faire une présentation pas trop pompeuse, parce que voilà. Moi j'ai commencé au début des années 90, je suis sorti de l'école en 91, je suis monté tout de suite à Paris pour travailler essentiellement dans le fantastique. On était tout un groupe d'amis à vouloir faire absolument ça. Et on est arrivé à une période où le monde de l'illustration était plutôt sinistré, l'illustration pour adultes ne vendait pas et tout était en train de s'effondrer. Et c'était sans avoir compris qu'il y avait d'autres domaines qui étaient tout naissants. Et moi, quand je suis sorti en 91, on avait fait des proto-formations sur informatique, on était vraiment au balbutiement. Et en fait, très vite sont arrivés tous les domaines du jeu vidéo, du dessin animé, du cinéma, qui sont arrivés, nous, dans nos domaines de production et de travail, et qui concernaient effectivement le fantastique. Et à partir dès le début des années 90, moi, j'ai commencé à travailler en illustration, mais à très vite essayer de diversifier, parce qu'il y avait plein d'autres domaines qui m'attiraient énormément, dont toute la partie jeux vidéo qui était vraiment balbutiante et également le dessin animé. Donc pendant pas mal d'années, je n'ai pas arrêté d'alterner. En fait, j'ai fait l'équivalent de 4-5 métiers différents parce que chaque médium avait son type de travail assez particulier. Aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est lissé au bout de 30 ans. Au bout de 30 ans de tous ces domaines-là, vu la façon dont ils sont professionnalisés, tout ça, c'est un peu élimé. Pour beaucoup de dessinateurs, il y a de plus en plus de façons transversales un peu de travailler, qui est de ne pas faire forcément que de la BD ou que de la couverture de livres ou que du cinéma, mais de pouvoir travailler en fait dans chacun de ces domaines. Mais j'avoue qu'à l'époque, il y a 25 ans, finalement, c'était pas évident du tout et ça ne se faisait pas vraiment. Donc j'ai commencé dès le début des années 90 à travailler dans la production et petit à petit, en fait, à partir du début des années 2000, j'ai décidé d'arrêter complètement la production pour ce qui était de courte durée d'ailleurs, mais qui était pour me consacrer essentiellement à la bande dessinée et à l'illustration. Parce que je trouvais que la façon de travailler dans ces domaines-là ne permettait pas de développer suffisamment intelligemment, le travail que l'on pouvait fournir. Parce que le travail que l'on pouvait demander aux dessinateurs, notamment dans le travail qui est demandé en production est un travail assez spécifique, c'est-à-dire qu'on nous demande généralement de développer des univers entiers, c'est-à-dire du premier bouton de chemise jusqu'au grand décor dans lesquels vont se passer toutes les scènes d'un film, d'un dessin animé ou d'un jeu vidéo, et que tout ça demande un travail assez colossal de développement. Et puis j'avais fini par me lasser un peu de ce travail-là parce que l'ensemble de ce travail généralement, de ce travail-là, de cette masse-là, n'est retenu que 5-10% en fait, c'est-à-dire très très peu est gardé, c'est très frustrant, et au final, ce qui apparaît sur un écran, à la fin, est tellement réducteur par rapport à ce qui a été développé. Du coup, dès les années 2000, moi j'ai eu envie de travailler que pour moi, quasiment, c'est-à-dire d'être au moins sur des projets, pas que pour moi, mais d'être au moins sur des projets où je savais qu'il y avait une finalité, et où je pouvais surveiller le travail jusqu'à cette finalité. Il n'y en a pas 36, ça a été, moi, dans les années 2000, ça a été la bande dessinée. Et après 10 ans, je finis par m'éloigner à nouveau de la bande dessinée, parce que je trouve que la bande dessinée permet de moins en moins de s'exprimer comme on veut, de cette même façon, et que le domaine de l'illustration me correspond plus pour ça, parce que généralement, quand je commence à avoir une idée farfelue, je sais que je pourrais avoir, au résultat, cette même idée farfelue dans le livre final. Donc, à partir des années 2000, j'arrête la...
Ouais. Pardon, je t'interromps, est-ce qu'on peut t'interrompre ?
Oui, oui, bien sûr. Et puis, attends, excuse-moi, et puis, dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que vu le nombre que l'on est, vous intervenez. Hein.
Il y a un micro, vous me demandez. Pourquoi cette liberté est-elle possible dans l'illustration, pas dans la bande dessinée ?
Alors, c'est pour ceux qui étaient déjà dans le débat précédent et tout, ça fait partie de tous les problèmes que l'on a soulevés. Je pense que j'aurais fait de la bande dessinée dans les années, à la fin des années 70, j'aurais été très heureux. Aujourd'hui, je suis de moins en moins heureux quand c'est de la bande dessinée, parce que les choses se sont tellement calibrées d'un point de vue commercial que tu es obligé d'entrer dans un format de collection, dans un format d'édition, et que l'on entre aussi dans un réseau de diffusion et de distribution qui fait que tout est très calibré et on n'est pas loin du paquet de lessive. Alors même si ce qu'il y a à l'intérieur peut, on peut avoir une liberté infinie, malgré tout en bande dessinée on a encore une liberté infinie pour dire, raconter ce que l'on veut, il n'empêche que après la façon dont c'est positionné commercialement, on entre dans une sorte de no man's land. Pour preuve, quand on fait le milieu de la bande dessinée en plus est facilement auto-centré, c'est-à-dire qu'autour de la bande dessinée n'existe rien, et dès qu'on fait quelque chose autour, ça n'est pas compris, ça n'intéresse personne. Et moi, il y a des par exemple un libraire qui travaillera dans le fantastique pourra avoir mes albums de bande dessinée installés dans sa librairie. Un libraire BD n'aura jamais mes livres d'illustration. Alors on peut dire c'est un problème de réseau de distribution et de choses comme ça. Non, mais il y a aussi un intérêt global qui fait que il n'y a pas vraiment d'écho, pas vraiment de discussion en fait entre ce que l'on peut avoir envie de faire et puis alors j'aime pas ce mot, mais le produit fini qu'est l'album de bande dessinée, finalement, après, il passe dans un réseau qui est assez particulier. J'ai des projets de bande dessinée, mais je les ferai pas sous la forme des éditeurs traditionnels avec les circuits de distribution habituels, ça c'est sûr. J'essaierai justement d'avoir une approche qui soit un tant soit peu proche de ce qui peut se passer pour le livre d'illustration, parce que ce qu'amène effectivement le livre d'illustration, il y a plusieurs choses. Il y a la qualité du travail avec les auteurs, avec les écrivains, avec lesquels vont être développés les univers de ces livres, parce que pour le coup, ce que je fais en illustration, c'est pas seulement des couvertures. La couverture, c'est juste un petit bout de ce qui peut être fait en illustration. C'est vraiment l'intégralité, c'est tout le travail de l'ouvrage, et d'essayer d'arriver à développer avec des écrivains de véritables développements d'univers. Donc de ce point de vue-là, l'illustration pour moi aujourd'hui représente quelque chose de beaucoup plus fort que la bande dessinée.
Moi, je rebondis dans un autre domaine, si c'est le mien, donc les jeux. Mmh. Est-ce que tu arrives à avoir une certaine liberté quand tu as des commandes pour un jeu ou une illustration ?
Oui, mais justement, ça a aussi tendance à se... Là aussi, le jeu, tout ce qui est jeu de plateau, jeu de stratégie, tous ces jeux-là ont tendance à se professionnaliser de plus en plus. Alors, très bien, mais également, la commande est en train de se calibrer. De plus en plus. Alors, pour expliquer un peu, dans un jeu, dans une boîte de jeu, il peut y avoir jusqu'à 5, 6, 7 dessinateurs qui interviennent à différents niveaux. Il y en a qui va s'occuper de la couverture du coffret, de la boîte, un autre qui va s'occuper, s'il y a des cartes dedans, qui va s'occuper des cartes, un autre qui va s'occuper du plateau de jeu, ce qui est souvent mon cas, un autre qui va s'occuper du fascicule de règles qui permet de présenter ce qui va se passer à l'intérieur. Donc, on a souvent un dessinateur qui va plutôt dessiner des personnages, un autre plutôt des décors, donc déjà c'est très segmenté. Malgré tout, au travers de ça, quand tu interviens sur un jeu, je sais que j'avais finalement beaucoup de liberté il y a 6-7 ans, et que ces libertés sont en train de se faire grignoter par des positionnements économiques aussi. C'est-à-dire qu'on commence à avoir, moi je commence à avoir des réflexions. Non, on va plutôt utiliser ce type de système de jeu déjà parce que on va avoir des figurines et qu'en ce moment les figurines c'est plus vendeur. À partir du moment où il y a des figurines, que c'est plus vendeur, il faut que tes plateaux ils soient plutôt comme ça et comme ça, et que oui, t'as des très bonnes idées, mais on va pas les tester. Parce que, alors là, pour le coup, dans le domaine du genre, ce que tu poses comme question, c'est que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en étant dessinateur, l'un des premiers plaisirs du dessinateur, c'est que pour un livre, on lit le livre, pour un jeu, on teste le jeu quand même. Donc, et que malgré tout, le dessinateur, alors pas tous les dessinateurs, et puis on n'a pas tous envie de le faire forcément, mais c'est de tester le jeu pour essayer d'avoir, il y a à la fois un travail graphique de dessin, j'ai envie de dire, juste pour en mettre plein la vue, voilà, ça c'est le, en gros c'est le contrat qu'on passe et puis c'est pour ça qu'on nous appelle, mais le dessinateur peut avoir ça de supplémentaire, d'intervenir aussi graphiquement dans la jouabilité du jeu, c'est-à-dire d'intervenir vraiment sur l'intelligence que peut apporter telle ou telle façon de dessiner pour expliquer un peu mieux les choses et que le dessin du coup a un aspect didactique qui n'est pas forcément demandé évidemment sur une illustration. Donc, et ce côté didactique, je l'ai de moins en moins en fait. Alors, je vais l'avoir en discutant directement avec des entre guillemets collègues, mais des gens qui sont devenus des proches. C'est-à-dire parce qu'on se rencontre souvent, et là, on va discuter plutôt à bâton rompu sur des systèmes de règles et comment ça pourrait être adapté, et comment ça pourrait être dessiné. Mais en dehors de ça, les choses sont de plus en plus dirigistes, je trouve.
Et toi, tu es spécialisé dans l'illustration de jeu, c'est plutôt character design, map, etc. Alors, character design, c'est le dessin, c'est la définition des personnages, ouais. De façon graphique. La map, c'est plutôt le plateau. Il y a d'autres choses encore. Toi, tu as une spécialité.
Oui, c'est les plateaux. Alors, pour
c'est vraiment les plateaux.
C'est vraiment les plateaux. Alors, il y a deux choses quand même, parce que c'est ce qui est projeté ici aussi. Vous avez plein de petites cartes qui sont projetées. C'est pour le jeu Timeline, donc oui, il y a les plateaux, mais il y a aussi Timeline. Sur du jeu de cartes, et là j'en suis à peu près 1 000 000 de cartes développées juste pour ce jeu. Donc ouais, à chaque fois, c'est l'illustration d'un fait historique, d'une invention, on a fait des timelines aussi sur la musique, sur le cinéma, donc c'est à quelle date a été fait tel ou tel film. Donc chacune de ces cartes illustre ça. Donc là, il y en a pas loin d'un millier. Mais en plateau de jeu, je couvre plusieurs dizaines de mètres carrés aujourd'hui, hein, mon actif, je pense, pour des plateaux qui sont adaptés pour des figurines qui font 25 mm quand même. Donc là aujourd'hui, oui, ça représente des mètres et des mètres carrés.
Et si on revient sur Timeline, c'est plutôt un jeu de cartes où, comme disait Nicolas,
ça
représente des situations ou des événements, donc c'est plutôt du concept art, on pourrait dire.
Ouais.
Et à chaque fois, c'est quoi, on t'a juste dit, voilà, c'est tel événement, tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, ou on t'a dit, tiens, il faut mettre un animal là, un personnage là.
Et Timeline, tu as travaillé avec un ami aussi.
C'est Frédéric Henry. Oui, c'est quand même Frédéric Henry qui lance le projet. Il a lancé le premier projet, en fait, il voulait absolument que ce soit moi. On avait déjà travaillé, un petit peu ensemble sur Adventureur, le projet Adventureur. Et on avait fait, je ne sais plus si on avait déjà fait Astéroïdes aussi chez Starry. Et il commence à me parler de ça. Il me dit, moi j'ai un projet, mais on a un seul problème, c'est que.
L'illustrateur va coûter cher.
L'illustrateur va coûter cher, on a un jeu qui ne tient qu'aux illustrations en fait, parce que le seul intérêt c'est d'avoir des visuels qui sont quand même suffisamment marrants pour qu'on ait envie de les aligner et de les poser sur une table. Et son projet c'était simplement de faire. C'est un jeu où chaque participant doit simplement mettre une brique supplémentaire dans une ligne temporelle. Donc on a un événement, il faut pouvoir poser une carte avant ou après cet événement, et puis chacun des joueurs fait ça, et c'est le premier qui se débarrasse de ses cartes qui a gagné. Voilà, je vous ai expliqué les règles du jeu. Donc c'est finalement pas plus compliqué que ça. Le seul problème, c'est que derrière, il fallait que les illustrations expliquent par elles-mêmes tout ça, et que oui, il y a un intitulé, mais il fallait qu'on puisse comprendre, voire jouer même avec les cartes. Et ça, c'est vrai qu'au démarrage, la façon de travailler était très dure parce qu'il y avait zéro budget, évidemment. Et Frédéric avait déjà démarché un petit peu et puis on lui avait fait des propositions d'édition, mais c'était quasiment avec des pictogrammes, quelque chose de très graphique. Il disait, non, ça ne va ressembler à rien, je veux pas juste des grosses flèches ou
des logos, je veux vraiment de l'illustration. Et ça, le problème, c'est que, en gros, pour pouvoir être payé sur un jeu comme ça, il faut que le jeu marche vraiment. Bon, alors, fort heureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça a permis de développer les suivants dans d'autres conditions. Mais du coup, j'en arrive à comment on travaillait exactement. C'est-à-dire que Fred, il faisait son repérage de liste. Et moi, je reprenais l'intégralité. C'est que le problème, tout le problème, c'est la différence entre un intitulé ou une motivation et puis l'illustration à la fin. On peut se dire, c'est super d'avoir la construction de la Statue de la Liberté. On fait super, c'est super important, mais graphiquement, ça n'a juste aucun intérêt. Quoi. C'est juste de représenter la Statue de la Liberté. Donc il y a tous les phénomènes historiques qui vont être compliqués à expliquer, des concepts, la déclaration des droits de l'homme, l'invention du plus dans la géométrie, dans les mathématiques.
Mais,
enfin, voilà.
Mais justement, là, par rapport à la construction de la Statue de la Liberté, ça veut dire que est-ce que des cartes ont été refusées parce que l'illustration finalement n'apportait pas grand-chose au jeu
Oui, voire parce qu'il y a eu des censures. Alors oui, moi ça m'est arrivé comme ça, en dépiotant, en disant bon ben voilà, telle carte, ça va être franchement pas intéressant. J'ai plus le souvenir d'ailleurs exactement en disant. Parce qu'on ne pourrait pas trouver un autre sujet, parce que c'est juste pénible. Déjà graphiquement à faire, c'est pénible, mais en plus, ce sera pénible dans le jeu, ça va rien apporter. Par contre, il y a eu aussi des contre-coups pour certaines cartes, notamment pour la version américaine. J'avais fait une carte sur la pilule contraceptive, qui a été interdite aux États-Unis, donc il a fallu en urgence refaire des cartes. Il y a eu des d'âpres discussions également sur l'invention du cinéma par les frères Lumière. Toujours avec la fameuse bataille Edison et Lumière. En fait, il n'y a pas de bataille dans l'absolu, parce que c'est là où ça a été tranché, c'est que tout le monde a gagné en fait, parce que on a pu finalement laisser la carte, parce que les frères Lumière sont inventeurs du procédé de cinéma pour son tournage et sa projection. En fait, ça a été retourné comme ça, ce qui fait que même les Américains sont contents, ils disent que c'est toujours Edison le premier. Donc il y a plein de cas de figure comme ça où oui, il y a des changements pendant le processus de travail, parce que entre la bonne idée de se dire ah oui, ça serait bien de faire ça, j'ai toujours pas trouvé de bonne solution pour le théorème de Pythagore, où je suis toujours bloqué. J'ai fait la carte, mais elle n'est pas d'un intérêt grandiose.
Alors toi, tu disais que pour les jeux, tu faisais plutôt de la map, plutôt des plateaux.
Oui.
C'est quoi la difficulté? Parce que c'est une vue du haut en général,
oui.
Par des plateaux.
Oui, oui, oui.
Alors, tu étais un spécialiste maintenant d'ailleurs.
Alors je suis un spécialiste des vues de haut, un spécialiste des vues de haut, bien à mon insu.
C'est vues de haut à angle droit, ça marche comment?
Alors malheureusement, c'est que c'est angle droit. Alors,
sans vous faire un coup. Sur tous les points de plateau.
En étant moi-même joueur de jeux de rôle, de jeux de plateau, l'une des choses qui m'a toujours énervé, en fait, c'est le principe du quadrillage. Parce que pour moi, le monde est tellement pas quadrillé que quand on a représenté une ville vue de haut, ça m'énerve de n'avoir que des lignes orthogonales, alors qu'on est censé être dans le fantastique, dans le rêve, et qu'on aimerait bien décaler ça. Le problème, c'est parce qu'il y a des systèmes de jeu qui te disent, ben oui, mais là, il nous faut des carrés, parce que il faut qu'on compte qu'à 3 cases, tu peux arriver à tel ou tel endroit. Donc, ça m'est arrivé de lancer des projets où, donc, malheureusement, majoritairement, dans 99% des cas, on fait des vidéos toutes simples. Sauf que, avec le, il y a de plus en plus de demandes, là aussi, des boîtes de jeux, d'avoir des systèmes un peu différents, parce que moi je tiens beaucoup à tout ce qui est les vues en perspective centrée, c'est-à-dire qu'on a vraiment, c'est comme si on avait vraiment une caméra plantée au-dessus, mais on voit malgré tout en perspective. Tout qu'ils font en fait par le point central de l'image du plateau de jeu.
Donc là c'est la vraie 3D là.
Même donc là c'est en fait c'est la vraie 3D, c'est dessiné, je dessine, hein, mais c'est le résultat c'est que c'est comme une vision, comme si on avait une vue caméra en 3D posée au-dessus des bâtiments. En gros, si vous mettez au-dessus des gratte-ciels, vous voyez toutes les perspectives des gratte-ciels jusqu'au sol.
Parce que tu peux pas privilégier, j'imagine si c'est un plateau, on est en gros 4 autour de la table, tu peux pas privilégier le point de vue de l'un par rapport à.
Ben non, t'as pas le droit. Donc la perspective centrée, c'est qu'effectivement le point de fuite il est au centre et il est visible de la même façon pour tout le monde.
Et il est faux. Tout le monde, de la manière.
Non. De toute façon, c'est faux. Oui, oui, c'est une vue, c'est une vue adaptée, de toute façon.
Mais alors, là, on parle. Quelles sont les autres difficultés pour une vue du haut, enfin, pour un plateau autre que la 3D ou la perspective? Parce qu'il
et si tu les rends simples, je vais être tout bête, mais en fait, c'est les rendre sympas. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup. Je vais pas faire une histoire du plateau carré, mais c'est vrai que il y a eu pendant très longtemps, l'un des trucs qui m'a fait le plus rêver, c'est les Dungeon Floor Plans qui avaient été édités au début des années 80, qui étaient les premiers modules qui permettaient de représenter des couloirs, des portes, des pièces, des choses comme ça. Et moi, ça me faisait rêver. Mes premiers scénarios, d'ailleurs, pareil, de Donjon Dragon que je développais, et je prenais des feuilles quadrillées et je quadrillais comme un fou à 11 ans. Voilà. Et le gros problème de ça, c'est comme c'est du carré, c'est très répétitif, c'est vite moche en fait, c'est d'arriver à rendre ça relativement sympa quand même. Donc c'est de pouvoir apporter pas mal de matière, de lumière, et sans tomber, j'ai vu d'autres travers ces dernières années, que j'aime pas trop non plus, qui est carrément mais qui est une bonne piste aussi, et puis surtout de pouvoir en produire beaucoup, parce que c'est l'un des problèmes du jeu de plateau, c'est qu'il faut en faire beaucoup pour que ça soit intéressant. C'est beaucoup qui commencent à travailler en 3D, donc avec des modules un peu 3D, mais ça reste encore relativement froid, et c'est toujours plus intéressant quand tu arrives à revenir et à redessiner encore par-dessus, à rajouter des matières, voilà.
Pourquoi tu dis qu'il faut en faire beaucoup pour que ce soit intéressant? Tu veux dire sur un plan financier, non?
Non, sur un plan du jeu. C'est-à-dire pour qu'un jeu soit marrant, là, toutes les dernières boîtes de jeu que je développe sont des carrés de 30 cm par 30 cm. Alors, on peut se dire que c'est pas grand-chose, mais sauf qu'il en faut, une vingtaine comme ça pour que le jeu soit intéressant.
Et tu sais, comme
parce que ça permet, tuiles, ça ce sont des tuiles que l'on pose les unes à la suite des autres et qui permettent de prolonger les pièces, qui font communiquer telle pièce à telle pièce, et puis là on va développer l'église, et puis là il y aura la mairie, et puis là il y aura le bar, et là donc chacun de ces éléments se connecte, et la beauté est dans l'ensemble de l'installation de ces pièces-là. Mais il faut faire une bonne vingtaine de tuiles pour commencer à avoir un univers un peu riche et un peu vivant en fait.
Et là, pour chaque tuile, t'as un point central pour la perspective à chaque fois. Quoi.
Alors, ça dépend des types de jeux, parce que je fais des plateaux qui sont vraiment en vue de haut traditionnels, et puis d'autres qui sont perspectives comme ça, où chaque tuile a sa perspective propre.
Et tu travailles comment? Tu travailles principalement en dématérialisé, donc avec palette, ou il y a du travail à la main, pinceau, crayon?
Alors à l'origine, c'est ça qui est assez marrant, c'est que la première série de plateaux, je savais pas trop comment gérer ça, et j'avais fait ça avec Rackham, feu Rackham, et ils voulaient commencer à développer tout un système de plateaux de jeu, d'abord pour le jeu hybride, dans confrontation. Et on avait discuté avec Raphaël Guiton à l'époque de la façon de le faire, et lui il me fait descendre dans les caves de Rackham en me disant: tu vas voir, on va trouver un truc super, parce que je lui disais: mais il faut de la matière, il faut faire vivre ça. Et puis c'était une époque où encore tout ce qui était numérique n'était pas si poussé que ça, et pour arriver à faire vraiment des belles matières et des belles choses sur machine, il fallait quand même se lever tôt. Et là je parle de, c'était 2002. Et donc, en fait, je lui ai demandé, lui, il avait commencé à travailler des matières, j'ai travaillé à partir des sols en maquette qu'il avait développé. Et c'est ça, moi, que j'ai d'abord scanné pour pouvoir en faire des déclinaisons, les premières déclinaisons pour commencer tous les dallages, tous les motifs, toutes ces imbrications-là. Et puis, à partir du deuxième boulot, je me suis aperçu que c'était une très mauvaise idée de commencer comme ça, parce que tout ce qui était objet du réel, quand on les scanne et tout, c'est impossible de faire quelque chose de parfait d'un point de vue graphique, parce que ça se joue vraiment au millimètre. C'est vraiment très pénible. Et en fait, il vaut mieux tout faire en numérique d'entrée de jeu, parce qu'on va beaucoup plus vite. En fait. Et dernière révélation, c'est il y a 2-3 ans, j'arrivais plus à décliner les plateaux, à trouver une solution correcte, et je me suis remis à dessiner, en fait.
Et à faire de la peinture aussi, même.
Alors, peinture pour des plateaux, non, mais...
Non, mais des peintures chez toi, il y a deux jours.
Oui, je me remets à la peinture aussi. Pareil, un peu sur le même raisonnement, parce qu'il y a un moment, le numérique, c'est un peu fatigant. Et de reprendre comme ça le plateau, d'abord le dessiner, le scanner, le continuer sur machine. Et en fait, ça donne... C'est une autre façon de travailler, c'est une autre façon de voir le trait, et c'est exactement ce qui se passe en illustration. Donc c'est ce que tu dis, oui. Chez moi, je me suis remis à la peinture pour cette même raison, c'est-à-dire que ce que l'on découvre ou ce qui vous motive vraiment à travailler ou à vous lever le matin, c'est parfois aussi simplement la façon dont on peut approcher une image. Et dans cette approche de l'image, c'est vrai qu'on sait, quand c'est informatique, bah c'est une voie exploitable. Et puis, toutes les techniques traditionnelles, c'est une autre voie. Et dans toutes ces autres voies, il y a des choses finalement qu'on occulte pendant des années sur la façon de travailler, sur la façon de maîtriser les différents outils, qui demandent à ce que le cerveau en fait adapte vraiment sa façon de penser au médium qui va être utilisé. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais ça m'est arrivé pendant 2 jours de faire des esquisses sur ordinateur en me disant tu vas avancer super vite parce que c'est trop bien sur ordinateur, ça va vite et tout, et de tout planter, d'attraper une feuille de papier, un crayon, et de tomber ce que je cherche depuis 2 jours en 5 minutes sur un papier. Et inversement, quelquefois des carnets de croquis qui sont remplis de dessins, qui à mes yeux ne servent strictement à rien, et la synthèse elle ne va pas se faire sur un carnet de croquis, elle va se faire directement sur l'ordinateur. Et c'est souvent une question de point de vue, une question d'échelle, parce que le travail sur ordinateur peut permettre de travailler très très loin. C'est comme si on devait se reculer pour regarder une peinture. Donc il y a des jours où j'ai l'impression de travailler sur des formats qui feraient 4 mètres par 3 et d'être collé au format et de rien voir en fait. Et on a besoin vraiment de se reculer. Et c'est vrai que l'ordinateur permet ça, tout de suite, parce que c'est juste optique, c'est la façon, c'est la taille à laquelle on affiche l'image, si on l'affiche en très gros ou en très petit. Et ça permet intellectuellement de très très vite cerner les problèmes d'un dessin. Ce qui ne se passe pas quand on est en traditionnel. Mais par contre, à force de travailler tout le temps comme ça, on perd aussi l'habitude de se casser le cerveau à trouver des solutions. Et du coup, à un moment, l'ordinateur inverse le problème et finit par te piéger. Et là, tu dis non, c'est pas possible, il faut re-réfléchir aux choses, il faut revenir à ce processus vraiment de réflexion, où c'est la main qui guide et l'œil qui vérifie, qui dit non, c'est pas possible, il faut faire ça autrement. Et c'est chassé-croisé qui fait que souvent dans mon travail, c'est un travail hybride, je fais ça aussi avec de la photo, hein, de la même façon. Et il y a, au même titre, il y a des boulots, j'ai des images qui peuvent être photographiques, mais elles ont pu être commencées en dessin et continuer en photo, ou inversement, commencer en photo, continuer en dessin, et retexturer pour donner l'impression que tout est de la photo. Mais voilà, ce jeu, c'est un jeu de découpage.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail sur les ouvre-bords ? Alors, les ouvre-bords, rapidement, pour dire ce que c'est, ce sont en quelque sorte des livres univers ou des livres voyages, des propositions de voyage dans des univers d'auteurs. Et Nicolas a travaillé sur 2 ouvre-bords, l'un autour de Lovecraft, qui s'appelle Gadat, et l'autre autour de Jules Verne, qui s'appelle Le Serpent dans les airs. Comment ça s'est passé ?
Un an dans les airs. Pas 100 ans.
Comment ça s'est passé, ce travail
Ben, très très mal avec un certain David Camus à l'époque, qui a travaillé donc sur Kadat. L'élaboration de cette collection, ça avait commencé déjà par Abîme de Mathieu Gabory, qui avait été illustré par Trignac. Et tout ce principe de cette collection, c'est vraiment le développement d'une cité fantastique qui est développée par un dessinateur et de plusieurs écrivains qui vont écrire des histoires croisées.
Là, vous avez des images.
Voilà, vous avez des images du Kadat actuellement. Et 4 écrivains qui vont écrire 4 histoires croisées, mais qui se passent à l'intérieur de l'univers qui est finalement développé par le dessinateur. Chacun de ces ouvrages a ce site particulier. Là, je suis actuellement en train de travailler sur un 3e ouvre-bord de cette même collection, qui est sur un univers plutôt renaissance fantastique, où on a réussi enfin à travailler le protocole jusqu'au bout. Quand tu disais entre la bande dessinée et l'illustration, voilà, ce qui motive aujourd'hui, c'est par exemple ce projet d'illustration, parce que on a enfin inversé ce que l'on voulait inverser, c'est-à-dire que je commence à faire les dessins, et ce sont les écrivains qui continuent.
Ça, c'est génial.
Donc, je ne suis plus dans la position de l'illustration, mais ce sont presque finalement les écrivains qui deviennent des illustrateurs.
Oui, ils illustrent des
illustrateurs. Alors, je n'ai pas du tout ce jugement-là, parce que pour moi, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas du tout de l'illustration. C'est encore autre chose. Enfin, c'est Oui, je pense qu'on est en train de faire un monstre un peu particulier. Et ce sont des motivations, moi, qui étaient nées déjà de la période de Kadat et d'un an dans les airs. Parce que déjà sur Kadat, quand on avait travaillé sur dans l'univers de Lovecraft, il y avait des moments où on aurait aimé, même à la conception du livre, arriver à
réaliser un certain nombre d'images de façon à ce qu'elles soient les premières sources d'inspiration des écrivains pour voir un peu comment en écriture ils étaient susceptibles de réagir par rapport à ces dessins. Et puis bah, sur des montages économiques un peu particuliers, c'est pas facile, c'est pas super bien payé parce que c'est une toute petite économie, donc ça n'a jamais pu se faire concrètement comme ça. Et sur un an dans les airs, il m'est arrivé exactement la même chose, c'est qu'on se trouvait aussi... alors je travaille souvent dans ces cas-là à la conception avec le directeur d'écriture, avec Raphaël Granit-Cassagnac, où on travaille vraiment ensemble aussi sur ce que l'on a envie de voir et la façon dont on a envie de voir intervenir les écrivains. C'est-à-dire que même s'ils ne vont pas travailler forcément guidés par mes dessins tout de suite, on pose un certain nombre de conditions pour être sûr que ça va se passer à peu près comme ça et comme ça.
Là, vous avez l'univers de Cadon derrière vous.
Voilà. Et là, on fera d'autres illustrations. Et donc, ce qu'on arrive enfin à faire là pour le prochain projet, c'est justement ça, c'est cette idée que bah, il est possible de faire les dessins avant l'écriture, et puis je ferai de toute façon des dessins après leur propre écriture pour venir illustrer le propos qu'ils ont écrit en partant de mes dessins. Voilà.
Là, tu t'es senti totalement libre quand même. Enfin, c'était une liberté partagée avec les auteurs.
Oui,
et par rapport à l'éditeur, on était, si je me souviens bien, totalement libre, justement.
Oui, on était totalement libre. Par rapport à l'éditeur, on était totalement libre. Les seules contraintes, ce sont vraiment des contraintes de fabrication. C'est-à-dire qu'à la fin, il faut quand même se retrouver avec un livre qui a un certain nombre d'images et qui a un certain nombre de signes et de ne pas se retrouver dans quelque chose de complètement disproportionné. On ne doit pas se retrouver avec un livre avec 1 million de signes et 300 visuels, alors que le livre ne devait faire que 120 pages. Enfin, voilà. Mais en dehors de ces considérations purement techniques, on a une liberté totale. Voilà.
À quoi rêves-tu ? À quelle sorte de livre rêves-tu ? Qu'est-ce qui te manque là maintenant en tant que créateur ?
Je m'oriente aussi sur un autre livre, la coédition. Parce que je crois beaucoup au fait que... je n'ai jamais trouvé qu'un dessin, à partir du moment où je le faisais, et c'est finalement pareil pour une peinture, ça n'était jamais quelque part un produit fini, une fin en soi, c'est juste une étape, un passage. En illustration, en fait, je trouve qu'il y a une chose qui est assez importante à considérer. Vous n'êtes pas dans un musée, c'est-à-dire si quelqu'un m'achète une illustration et qu'il l'affiche chez lui, pour moi, c'est pas une peinture, c'est une illustration. C'est-à-dire qu'elle ne fait œuvre d'art, si elle fait œuvre d'art, qu'en étant l'objet, c'est-à-dire la couverture d'un livre. Et c'est le livre qui est l'œuvre. C'est pas mon image. Pour moi, Kadat, notamment, c'est de plus en plus prégnant là, avec les années. On l'a fait en 2010. C'est-à-dire pour moi, je pense qu'il y a vraiment, on va être pompeux, je crois qu'il y a vraiment un acte artistique sur cet ouvrage. Mais qui n'est pas de mon fait, qui est de la globalité de cet ouvrage. C'est le livre lui-même qui fait œuvre. Voilà. Et pour, c'est-à-dire que s'il y a œuvre, c'est au travers des 80 illustrations qui font ce livre, c'est au travers des 4 textes des écrivains, et c'est cette globalité qui fait que c'est un livre et que c'est pas juste quelque chose qu'on affiche sur un mur. Et moi, c'est ce type de recherche qui m'intéresse.
C'est vrai que c'est un illustrateur particulier, il a plusieurs particularités, notamment celle d'être constamment épuisé. Ce qui est le cas actuellement, on aurait bien aimé vous le présenter à l'espace librairie au premier étage, mais il est constamment épuisé. Dès que l'éditeur, alors on n'est pas millionnaire pour autant, je vous rassure, l'éditeur ne fait pas forcément des tirages énormes, il le réimprime à 2000, mais les 2000 partent en fait très très vite. Hein,
ce qui est déjà pas mal.
Ouais, à chaque fois. Ouais.
Ah bah, sur plusieurs années, oui, évidemment. Hein. Ça finit par... c'est devenu
un... T'as dit à combien, là ? Non, il est à 5000. Hein.
Non, mais il réimprime à 2000 à chaque fois.
Oui, à chaque fois, oui, au
maximum. Oui, non, on a plus que ça. Ah, ouais. C'est devenu un classique parce que, malgré nous, enfin, la petite surprise. Ouais. Voilà. Si vous avez des questions à poser à Nicolas, profitez-en, parce qu'on a un horaire à tenir aussi et une conférence du monsieur qui, justement, pose une question. Oui, monsieur, vous allez pouvoir parler bientôt.
Je vois beaucoup d'allusions scientifiques assez précises de trucs mathématiques, de concepts physiques tout à fait bien définis, ça vient d'où ça ?
Je serais incapable de répondre. Non, j'aime beaucoup l'architecture. Et j'aime bien.
j'aime bien tout ce qui est quand même relatif à des plans, à des choses très structurées. Alors ça se voit pas forcément sur mes images, hein, mais je suis un grand fou de Skuyten, enfin Schuiten, ce genre de... J'aime beaucoup le rêve, le fantastique, mais qu'est-ce que je le préfère quand il est bien construit? Enfin, j'ai une déformation un peu comme ça. J'aime bien qu'il y ait à chaque fois un fond ou un double sens à chacune des choses qui est posée. C'est-à-dire qu'une vision, même si elle est gratuite, dans le sens, j'ai voulu faire ça rouge parce que je trouve ça plus, à mes yeux, je trouve ça plus beau que le bleu. Il y a cette gratuité-là, mais en sous-jacent, à mes yeux, il doit toujours y avoir quelque chose en plus qui a du fond. Et ça, souvent, ça fait peut-être référence à tout ce qui peut être mathématique ou physique. Ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse.
Le rouge chez Nicolas n'est pas forcément la preuve qu'il aime ou qu'il critique, au contraire, le régime communiste. Hein.
Pour revenir aux écharpes rouges de tout à l'heure.
Pour
Alors, j'ai une deuxième question. Je vois que les éditeurs sont contentieux, mais une certaine et les auteurs.
Ouais.
Les auteurs renversent pas la table et disent grand à vous, hein, on devient éditeur. Au-delà d'un à quel point de contentieux avec les éditeurs, faut-il renverser la table et dire écoutez, bon, c'est bon, nous on va pas se mettre en boîte de conserve.
Ouais.
Parce que je pense qu'il y a un point.
Eh ben, a priori, oui, à mon stade, à mon âge et avec mon parcours, moi, je suis en plein dedans. C'est-à-dire que j'ai 45 ans, ça fait 25 ans que je fais ça. À force de travailler dedans, notamment pour l'édition, je connais de la fabrication de l'image jusque chez l'imprimeur. Donc en fait, avec les années, j'ai rempli toutes les cases de comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ça. Je ne suis en ce moment que sur des projets de coédition, de choses comme ça, où je suis partie prenante, même financièrement, pour que justement ces choses-là se fassent. Parce que j'estime aujourd'hui que les éditeurs ne me conviennent pas, je trouve qu'ils ne sont pas assez compétents, ou alors qu'ils sont dans des domaines de diffusion et de distribution qui sont extrêmement sclérosés, qui sont plutôt sclérosés, qui me fatiguent. Et alors là, ça fait pas mal d'années, je traîne un projet de bande dessinée, mais plus jamais je ne le montrerai à un éditeur traditionnel. Quand j'ai éditeur traditionnel, c'est Glénat, Delcourt. C'est un projet qui est déjà en coédition avec un éditeur littérature pour le coup, avec les éditions du Bélial, et on est en train de faire des montages. Là, on va déjà essayer en coédition un livre d'illustration sur Lovecraft, qui est déjà un truc un peu particulier. Et puis derrière, il y a un projet de bande dessinée, mais c'est tout à fait dans ce cadre-là, ouais.
C'est une grosse décision quand même, parce que c'est deux métiers complètement différents, qui n'ont rien à voir. Auteur, oui. Éditeur. Oui. Auteur, il y a quand même une grosse partie créative. Mmh. Hein, certaines libertés. Mmh. L'éditeur, c'est autre chose, c'est la production, c'est des choses beaucoup plus terre à terre, c'est le
sous. Oui, alors il y a des choses beaucoup plus terre à terre. En même temps, moi, j'ai pas tout à fait tout raconté mon parcours, mais j'ai fait 5 ans de direction artistique dans une boîte de jeux vidéo. On est Arcel Tribe, et on était que quelques-uns au début, ça a fini. Moi, je pilotais 50 personnes d'un côté, et après, il y avait les phases, et dans les phases de décision, il fallait. Il fallait voir Monsieur Virgin pour essayer de vendre son jeu. Donc il y avait toute cette autre partie qui est plus liée à un travail d'édition ou de commercial ou de représentant. Donc ça je l'ai fait aussi. C'est un truc qui me fait absolument pas peur là.
Ouais, donc t'as un passif qui t'a aidé dans la décision. Quoi.
Mais les techniques, l'évolution des techniques et des modes de financement, que ce soit Kickstarter ou la PAO à la maison, j'allais dire, sont des choses aujourd'hui qui permettent à de plus en plus de
voyez ça aussi hein,
ouais. de se publier eux-mêmes sans passer par un éditeur. Hein.
J'aurais pas dit il y a 15 ans, je m'éditais tout seul, pas simplement pour des questions techniques, mais ne serait-ce que technologiques. Quoi. C'est vrai que ça résout plein de problèmes.
D'autres questions, sinon oui.
Oui, en ce moment, enfin, je vous parlais tout à l'heure, il y a un mouvement qui est de plus en plus vrai, de mettre en avant les illustrateurs.
Oui.
Avant, moi, sur une boîte de jeu, on mettait dans l'auteur parfois, et dans les illustrateurs, on maintenant, c'est quasiment systématique, c'est très bien. Et justement, en parlant de Kickstarter, j'ai l'impression que peut-être que l'illustration, le travail graphique sur un jeu, a une grande partie sur la réussite.
Oui.
Alors, moi, je me permets d'intervenir.
Oui, moi aussi.
Alors, déjà, on est un pays latin, et on va être une grosse culture artistique très importante, hein, comparée aux anglo-saxons, à mon avis, je pense que c'est un point. Donc, on connaît maintenant l'importance croissante du jeu en France. Et le Kickstarter, on parle de Kickstarter, mais c'est du crowdfunding, hein, du financement participatif, et il existe différentes plateformes qui sont franco-françaises ou internationales comme le Kickstarter. Et aujourd'hui, en fait, le financement participatif permet de communiquer. Donc c'est une plateforme aussi marketing. Et évidemment, pour bien communiquer, par exemple, sur une œuvre ou sur un jeu, ce qui est plus flagrant et ce qui jette aux yeux et ce qui est visible, c'est ce que va produire M. Fructus, c'est des illustrations. Et plus elle sera belle, plus elle sera attirante, plus normalement on devrait avoir de backers, de participants sur cette plateforme. D'où l'importance. Alors que le jeu n'est pas terminé. Hein. Par exemple, sur Conan, dont on parlait ce matin, on parle de succès, mais ce n'est pas le jeu qui est un succès. C'est l'aspect marketing qui est un succès.
Marketing et visuel.
Pour l'instant, le jeu. Moi, je n'ai pas joué, hein, je ne sais pas s'il est bien. J'ai backé, j'ai participé, j'ai mis 90 euros, mais je ne sais pas s'il est bien.
Et corollaire de ça, et on va conclure juste là-dessus, c'est que l'illustrateur étant quand même de plus en plus important et de plus en plus nécessaire au montage financier de ce type de produit, il faut que sa position, sa place soit mieux reconnue. Et ça, je vais vous dire un truc qui peut paraître assez curieux, surtout quand on voit Nicolas, le reconnaître comme auteur, à part entière, comme artiste, ça veut dire aussi lui donner un pourcentage sur les ventes. Ce qu'il n'a pas dans la plupart des cas.
Et je finis juste là-dessus, justement, ça va répondre là-dessus. C'est le montage de timeline, dont il y a les cartes ici. Comme c'était un montage complètement foireux au départ et ça a été très très chaotique, on a finalement établi un contrat au bout du troisième jeu à peu près, pour que ça corresponde à un vrai paiement et qu'il y ait une réalité de ça. J'étais co-auteur. Je suis toujours co-auteur. Enfin, non, je suis plus co-auteur, en fait, d'une certaine manière. J'ai pas envie de me battre juridiquement là-dessus. Je passe un peu toutes les histoires, tout le pataquès, mais Asmodée a décidé de racheter Timeline. Parce que Asgard, la société qui avait ça, faisait faillite et s'est fait racheter ses dettes en fait en vendant Timeline. Bon, donc Timeline représentait à peu près une centaine de milliers de jeux. Non, même pas tout à fait, 50 000 jeux à peu près. En sachant que le dessin, sans du tout juger le travail de Frédéric Henry. Le travail de Frédéric Henry était presque anecdotique, d'accord, il a le concept design du jeu, je veux bien, mais c'est pas grand chose, et c'est vrai que ça fait partie de ces foutus jeux qui se vendent au graphisme. Exactement quand on parlait de Howard avec les Frazetta qui fait exploser les ventes d'Howard. Bon, là on est un peu dans le même cas de figure. Quand c'est arrivé chez Asmodée, première réaction d'Asmodée, ça a été de dire: on refuse absolument de payer Fructus en droit d'auteur, ça va faire jurisprudence. Dans l'idée, si ce crétin de dessinateur, on commence à le payer, il va falloir payer tous les dessinateurs.
Je ne sais pas si vous voyez ce que ça suppose, ce que ça implique. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que contrairement au forfait, plus le jeu a du succès, plus l'auteur gagne d'argent. Est-ce que si vous payez au forfait, que le jeu marche très fort ou pas, ça ne change rien pour le dessinateur?
Voilà, donc ça m'a pas empêché, et je termine juste là-dessus, parce que tout ça est en train d'évoluer, c'est pour vraiment répondre à la question. Tout ça évolue, donc ça c'est fini, je me fais racheter forfaitairement les droits sur ce jeu-là, c'est-à-dire qu'ils sont en train de payer des grosses sommes pour absorber le truc, mais je suis persuadé que je ne gagne que le dixième de ce que je gagnerais si j'étais resté au pourcentage. Mais aujourd'hui, je serais peut-être en procès avec Asmodée, donc c'est pas la peine. Mais j'ai préféré partir avec le dixième plutôt que d'aller en procès et de me barrer pour 10 ans. Mais un jour ou l'autre, Asmodée va perdre. C'est-à-dire que malgré tout, il va y avoir un système où la reconnaissance du dessinateur se fait quand même, parce que effectivement, c'est la tendance du jeu français, je trouve. C'est vraiment le côté typique du jeu français par rapport au jeu allemand, c'est que on vend quand même pas mal sur la couverture, hein, sur le design, sur le côté l'appréhension, le côté tactile et l'univers véhiculé par le jeu.
Bon, merci Nicolas.
Merci à vous.
Et Dan Nicolas, je suis désolé, on va devoir arrêter. Mais Nicolas reste là, vous pouvez le voir, il s'évanouit pas. Voilà. Mais on passe à un autre Nicolas, et toujours avec la question du design. Et ce sera tout aussi facile.